Auditrices, auditeurs d'Antenne Doc, bonjour. On vous l'avait annoncé, aujourd'hui à 15h, nous prenons le direct en compagnie de la Ligue des Droits de l'Homme. Je suis d'ailleurs en compagnie de Leïla Kenouda et Olivier Mainfroy. Bonjour à vous deux.
Bonjour William.
Bonjour William.
Et vous êtes venus en compagnie de Harry Halimi. Bonjour Harry.
Bonjour William.
Et c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui ici dans ce studio en direct pour ton travail d'avocat dans cette grande lutte contre les violences policières, pour les livres que tu écris, notamment sur la question identitaire qui nous permet de se repositionner un petit peu dans notre monde, de revoir un petit peu notre paradigme, dans chacun qui est quoi, et que nous avons tous des identités plurielles, et c'est tant mieux. Et je revendique les identités plurielles de tout un chacun. Aujourd'hui, tout à l'heure, à 19h, tiens, ben, je te laisse Leïla présenter ce qui se passe tout à l'heure à 19h.
Alors, tout à l'heure à 19h, nous avons organisé une conférence à l'Auberge de la Jeunesse, à Cahors, en présence d'Harry Halimi, en présence de Calligramme, que je remercie d'avoir répondu présent. Et merci également à l'Auberge de Jeunesse, le CHE, à l'équipe de l'Auberge de Jeunesse, et puis à Antenne Doc aussi, au passage, et aux bénévoles de la Ligue des Droits de l'Homme qui ont contribué à l'organisation de cette conférence. C'était pas simple à mettre en œuvre, et puis ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir recevoir Harry à Cahors aujourd'hui. Voilà, donc ce sera une conférence autour de ces deux livres, autour de ces deux ouvrages, dont le dernier va sortir début avril. Donc L'État hors la loi et Moi, juif français de gauche dans le désordre.
Alors, L'État hors la loi, logique des violences policières, celui-ci, il est déjà sorti. Et celui donc que tu nous présentes ce soir en avant-première, hein, notamment, c'est Juif de gauche français dans le désordre. Et moi, pour avoir parcouru un peu ces deux ouvrages, il y a quand même de sacrés fils conducteurs entre ces deux ouvrages. C'est la question identitaire et j'ai envie de dire cette identité liée à notre passé, liée à notre bagage culturel et liée, donc, quand on parle de tout ça, ben, enfin voilà, on va commencer comme ça.
D'abord, merci. Non, mais vraiment, de nous recevoir. Merci à la Ligue des Droits de l'Homme de Cahors d'organiser cette conférence. Hier, on était à Martel. Et je trouve ça d'abord génial de pouvoir aller sur tous les endroits du territoire, dans la ruralité, de pouvoir parler de ce type de sujet. De sortir un peu, moi, de mon microcosme parisien qui est fatigant. Et c'est aussi une identité, d'ailleurs. Et les identités des territoires sont importantes et c'est ce sur quoi je pense qu'il faut travailler aujourd'hui. C'est un sujet majeur d'un point de vue contemporain. Le dernier livre que tu évoques, « Juif français de gauche dans le désordre », je ne m'attendais pas du tout à l'écrire. Je ne savais pas du tout, puisque je venais de sortir d'ailleurs L'État hors la loi en septembre dernier, que l'éditeur La Découverte m'a demandé en urgence d'écrire ce livre, compte tenu du contexte, à savoir d'abord le 7 octobre et les attentats terroristes commis par le Hamas en Israël, donc 1200 personnes tuées, et parallèlement la réplique israélienne, terrible, que la Cour internationale de justice qualifie désormais de risque plausible de génocide et qui ne s'arrête pas. Et donc, on a peut-être, certains commencent à en parler, un génocide en cours. Donc, on est dans un moment historique fondamental. Évidemment, pour quelqu'un comme moi, ça suscite des interrogations, des inquiétudes, des angoisses majeures. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Je me suis réveillé. J'ai vu ça, j'ai entendu ça, j'ai été sonné. Et sonné également par la réaction du camp des gauches auquel j'appartiens. Je fais partie de la Ligue des Droits de l'Homme, j'ai travaillé avec pratiquement toutes les organisations de droits humains, de défense environnementale, les partis politiques de gauche. Et quand j'ai vu la réaction de certains partis ou organisations à l'égard de ce qui venait de se passer ce jour-là, le 7 octobre, le jour même, j'ai senti une forme d'insensibilité, ne serait-ce qu'à l'égard des personnes de confession juive, comme moi, qui font partie du corps des gauches et qui travaillent, et donc une absence de prise en considération de notre identité. et puis cette identité, elle est particulière. Moi, c'est aussi un peu parce que je suis juif et que le judaïsme français est une longue construction française qui est d'ailleurs un peu différente des autres judaïsmes que le judaïsme américain. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs une approche différente par rapport à la situation à Gaza actuellement entre la communauté juive américaine et la communauté juive française. Ce sont deux histoires et donc deux postures différentes. Il faut comprendre tout ça. Toujours est-il que, oui, un juif français de gauche avec un judaïsme français construit dans l'universalisme, tout au moins pour moi réel, construit dans la défense des droits humains, construit dans le progrès social, voir ses amis, ses compagnons, ne pas être sensibles et ne pas faire preuve justement d'humanité à ce moment-là, ça a été un bouleversement. C'est dans cette mesure-là et c'est dans ce cadre-là, je pense, qu'on m'a demandé d'écrire ce bouquin pour essayer de poser les mots, parce qu'il y a beaucoup de mots qui clivent, qui fracturent de plus en plus. Les gauches étaient déjà fracturées, mais là, c'est façon puzzle, on peut dire. Et donc, tous ces mots que sont juif, sionisme, antisionisme, antisémitisme, qui sont lancés comme des armes dans le paysage politique entre les personnes, c'est plus des mots, hein, ce sont des pierres. Et il faut pouvoir poser ces cailloux-là et retrouver leur sens, retrouver leur histoire, retrouver leurs aspérités et expliquer, faire un petit peu de pédagogie pour expliquer ce qu'ils signifient et trouver, et quelquefois, leur polysémie qui explique aussi ces clivages.
Alors, il y a une utilisation, selon moi, hein, politico-médiatique de tous ces mots qui emmène dans un genre de fabrication d'un ennemi commun. Mais avant d'arriver à ce point-là, je veux bien qu'on commence justement d'abord par dérouler et expliquer tous ces mots pour voir un peu là où je veux en venir et ce que je veux dire par là, en fait. Déjà, être juif, qu'est-ce que ça veut dire selon toi, Arié ? Et qu'est-ce que ça veut dire selon aussi une définition qui est donnée, mais là, de manière plus institutionnelle ?
Alors, d'un point de vue religieux, parce que c'est comme ça que j'ai découvert ce qu'était être juif, puisque j'étais dans une école juive, je suis né dans une famille juive, je faisais Shabbat, les grandes fêtes, du point de vue de la religion. Et après, le point de vue de la religion, c'est pas forcément tout le monde qui le partage, parce que être juif, c'est pas forcément uniquement religieux, ou c'est même pas du tout être, il y a même pas du tout d'essence religieuse pour la plupart des juifs français. Donc, être juif, c'est être né d'une mère juive. C'est une transmission matrilinéaire. Mais ça, c'est l'aspect uniquement religieux. Moi, je suis né juif du point de vue religieux, mais je me définis aujourd'hui comme juif différemment. Je considère que je suis juif parce que je le ressens comme tel. Et je considère que toute personne qui se sent juive a la possibilité de se définir comme tel. C'est une définition radicalement subjective, qui est certainement contestée et conspuée par beaucoup, mais c'est comme ça que je le conçois aujourd'hui. Donc voilà, et vous avez je crois qu'il n'y a pas de possibilité concrètement, et qu'il ne faut pas définir le mot juif, ou ce qu'est être juif, ou l'essence juif, ou même l'appartenance qui est quelque chose d'aussi très compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai une approche extrêmement subjective de ce qu'est être juif.
Oui, c'est très pluriel. On peut être juif, mais vraiment de plein de manières différentes. Ça, c'est important d'insister dessus. C'est pas un espèce de mot tiroir. C'est très compliqué de pouvoir, du coup, rendre compte d'un fait médiatique en utilisant des mots tiroirs comme ça.
Ah bah oui. Et puis, vous savez, moi, j'ai rencontré à travers ma vie plein de personnes qui se définissent comme juives, qui ne sont pas nées de mère juive. Certains avaient même simplement des ancêtres juifs, mais ont retrouvé une forme de spiritualité, ou simplement voient des rites dans leur famille. Vous savez, il y avait ces juifs espagnols pendant l'Inquisition, ou portugais, à qui on a imposé d'abdiquer leur religion, et certains ont continué à pratiquer. On a appelé ces juifs les juifs maranes. Et aujourd'hui, on a encore des juifs maranes qui ont subsisté, qui ont continué à pratiquer en ayant conscience qu'ils s'étaient convertis au catholicisme à cette époque-là, de génération en génération. Mais ils se sentent juifs. Et donc, ça n'est vraiment pas une question religieuse. C'est une question, finalement, de ressenti, une question de subjectivité. Vous avez des personnes qui sont nées d'une mère convertie au judaïsme, mais avant même qu'elle se convertisse au judaïsme. Et selon la religion, selon les préceptes religieux, cette personne n'est pas juive parce que sa mère n'était pas convertie au judaïsme avant sa naissance. Mais qui se sont pleinement juifs, qui ont toujours pratiqué les rites et autres. Donc voilà, il n'y a pas d'unicité, il n'y a pas de décence monolithique de ce qu'est être juif aujourd'hui, à mon sens en tout cas.
Et est-ce qu'il y a un lieu géographique où est-ce qu'on peut être juif ? Est-ce que ça... Qu'est-ce que tu as à dire sur cette question, sur ce questionnement-là ?
Bah, le principe même de ce qu'est devenu le judaïsme à travers les siècles, c'est pour certains le côté diasporique, c'est-à-dire l'exil, les exodes. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez récurrent dans la tradition juive, les exodes. Il y a eu l'exode de Judée, l'exode de Babylone, des exodes multiples, les exodes des juifs espagnols dont je parlais après les inquisitions, les exodes des juifs français qui ont été souvent expulsés du territoire alors même qu'ils étaient là depuis le Moyen-Âge, du territoire français. Vous voyez, ce qui caractérise dans l'histoire, dans la majeure partie de l'histoire, le judaïsme, c'est le fait d'être juif, c'est l'exode, c'est le juif errant. Ce côté sans terre. Après, il y avait quand même, il y a toujours eu, y compris dans la tradition, par exemple, pendant la fête de Pessah, qui est la Pâque, mais bon, c'est l'ancêtre de la Pâque juive, c'est la fête de Pessah, il y a ce qu'on appelle un seder. Un seder, c'est les deux premiers soirs de Pessah, on fête la sortie d'Égypte, encore un exode. Et ce soir-là, une chose que l'on récite, c'est cette histoire qu'on raconte, et on dit « Bashana Abba Yerushalayim », ça veut dire « l'année prochaine à Jérusalem ». Et c'est ce vœu pieux, ce vœu que l'on se fait dans les familles juives depuis toujours, hein, depuis plus d'un millier d'années, de revenir à Jérusalem. Après, encore une fois, c'est une histoire mythique, c'est une histoire traditionnelle. Et puis, il y a eu, à un moment de l'histoire, au XIXe siècle, une idéologie politique qui est cette idéologie sioniste qui a consisté à dire les juifs n'ont pas de terre, c'est un peuple errant, c'est une nation éventuellement ou des nations sans terre, opprimées, réprimées, qui subissent pogrom après pogrom, notamment en Europe de l'Est, en France, l'Inquisition en Espagne, partout dans le monde à travers l'histoire. Et la seule manière de pouvoir être enfin en sécurité, c'est de trouver une terre. Cette terre qui a été définie par le congrès sioniste de Bâle au XIXe siècle, il pouvait y en avoir plusieurs d'ailleurs, il y en avait plusieurs qui avaient été envisagés, mais y compris l'Ouganda, hein, ou bien l'Argentine, ou bien les États-Unis, une partie des États-Unis au cœur des États-Unis. Plein de terres ont été envisagées, et celle qui a été retenue dans ce conglomérat et ce compromis politique, c'est la terre mythique et ancestrale de la Bible, à savoir Israël, la Palestine. Et c'est à partir de ce moment-là que ce projet a commencé à naître et qu'il y a eu un début de colonisation, de peuplement au fur et à mesure.
Alors, dans cette identité que tu as, cette identité, on va dire, stratifiée. Donc là, on a discuté un petit peu autour de ce mot juif. Tu as commencé à parler d'antisionisme, enfin du sionisme. Très vite, on pense à l'antisionisme qui découle derrière dans les mots, hein, que tu expliques. Et je voudrais que c'est peut-être le moment d'expliquer la différence entre les termes d'antisionisme et antisémitisme.
Pendant très longtemps, ce n'était pas du tout la même chose. ça n'est toujours pas la même chose. L'antisionisme, d'ailleurs, au début, au moment où ce mot est né, il est né en même temps que le sionisme, au XIXe siècle, c'était exclusivement des juifs qui l'étaient, antisionistes. Vous aviez plusieurs types de mouvances ou de courants politiques au sein des juifs d'Europe et du monde. Et vous aviez évidemment ce mouvement sioniste né avec Théodore Herzl, ou avec bien d'autres penseurs, qui avaient des visions différentes d'ailleurs du sionisme, qui s'associaient pour la plupart au socialisme ou à, pour certains au nationalisme. Et puis vous aviez ces juifs qui ne voulaient pas retourner ou s'installer sur une terre particulière. Vous aviez par exemple le Bund, qui était un mouvement juif socialiste internationaliste, né en Europe centrale, dans ces terres où seuls où les Juifs avaient le droit de vivre, parce qu'à cette époque-là, eh bien, autour de la Hongrie, de la Pologne, de la Russie, ils pouvaient pas vivre n'importe où. Et donc, il y avait une zone géographique déterminée où les Juifs avaient le droit de vivre. Et dans cette zone-là, eh bien, est née une forme de conscience aussi nationale, mais internationaliste, qui a consisté à dire nous, on veut pas du tout, on est bien là où on est, et puis on veut contribuer à l'international socialiste. Le Bund existe toujours. Vous avez encore les reliquats de bundistes. Bon, évidemment, ça a moins fait floresse que le sionisme. Vous aviez aussi les assimilationnistes. C'était des juifs qui n'étaient pas forcément socialistes. Les juifs français, c'est une histoire de l'assimilationnisme. C'est de rentrer et d'oublier sa tradition et sa culture progressivement et de devenir par priorité français et de ne vivre sa culture et sa tradition juive que dans le ressort familial ou dans le ressort privé ou plus du tout. C'est ça, c'est une des histoires du franco-judaïsme qui a d'ailleurs été imposée. Elle n'était pas forcément volontaire. Au moment de la Révolution française, la nation juive, c'est comme ça qu'on la définissait, il y avait 500 juifs à Paris et un peu plus en Alsace-Lorraine. Et ces juifs-là, on leur a dit vous allez être légal des autres, vous allez être citoyen parmi les citoyens avec les mêmes droits, ce qui n'était pas le cas avant. En revanche, il va falloir mettre de côté votre culture, votre tradition et votre religion. Elle doit passer derrière votre identité française et vous devez vous fondre dans le creuset national français. Voilà ce qu'on leur a dit. Et puis finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu les juifs d'État, il y a eu les juifs militaires, et on leur a quand même rappelé, à tous les moments de l'histoire, notamment au moment de Dreyfus, au moment où la Ligue des droits de l'homme est née, on leur a quand même rappelé que même si ils avaient tout fait pour se fondre dans le creuset national et mettre de côté leur tradition et leur religion, on les considérait quand même comme juifs, et on ne les considérait pas comme égal, et on les considérait comme traîtres à la nation. Ce fut le cas de Dreyfus et de toute l'époque et toute l'histoire des Dreyfusards et des anti-Dreyfusards et de la naissance de la Ligue des droits de l'homme, parce que la Ligue des droits de l'homme est née à ce moment-là, à un moment où l'antisémitisme était une des identités françaises, d'ailleurs, et du catholicisme français, la judéophobie chrétienne était quelque chose d'extrêmement commun, voire d'une forme de fierté revendiquée par une grande partie de la nation française.
Alors, peut-être que là, le lien il risque d'être un petit peu maladroit. Attention. Est-ce qu'on peut faire un lien entre ce qu'on va appeler un juif qui serait anti-sioniste, du coup, qui serait anti donc ce monopole politique qui est en place, et être de gauche?
Alors, il n'y a pas de monopole politique. En revanche, pour définir, parce que je n'ai pas été au bout de la définition du motionnisme et du mentitionnisme, qui se regardent en miroir, et après de ce qui va se passer avec le mot antisémitisme et comment ils vont se confronter et quelquefois se relier. parce que c'est toute une histoire. Et il faut, pour comprendre ces mots, faire des séquençages historiques. On ne peut pas comprendre ces mots, savoir ce qu'ils signifient, quelles sont leurs définitions, sans faire de séquençages historiques, parce que leurs définitions vont évoluer à travers l'histoire. Et tout le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que justement, certains utilisent des mots qui existent à une époque donnée, au moment par exemple avant la création de l'État d'Israël, et qui n'ont plus la même définition aujourd'hui. Plus du tout. Je m'explique. Comme j'ai commencé à partir sur ce qu'était être antisioniste, c'était être juif non sioniste à une époque. À partir du moment où l'État d'Israël a été déclaré, donc c'était d'abord en 1947, avec la reconnaissance par l'ONU, puis en 48 avec la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël par Ben Gurion à Tel Aviv et la guerre d'indépendance et la guerre israélo, la première guerre israélo-arabe de 48. Et juste un petit peu avant, la contestation du sionisme, elle s'est étendue à d'autres parties de la population. Notamment, évidemment, la population palestinienne, qui avait, de la même manière d'ailleurs que cette population juive, qui recherchait une forme d'autodétermination, puisque c'était une autodétermination, une recherche d'autodétermination pour les juifs. C'était un peuple sans terre, qui voulait avoir une terre et une indépendance. Il faut le prendre comme tel. Et puis, les Palestiniens, qui étaient chez eux, et qui progressivement ont vu arriver cette colonisation de peuplement sur 50, 60 ans, peu ou prou aidés par les Anglais, au bout d'un moment, ça dépendait des périodes. Et puis cette colonisation qui s'est accentuée, notamment juste avant, au moment du nazisme, encore plus évidemment pendant la Shoah, et encore plus après la Shoah. Et donc, l'antisionisme, évidemment, il s'est incrusté dans la conscience panarabique, c'est-à-dire dans ce mouvement anti-impérialiste, les non-alignés, qui venaient de l'Égypte, de Nasser, et qui emportaient beaucoup de nations arabes, qui sortaient elles-mêmes de leur joug colonial, puisqu'elles commençaient, ou elles étaient en cours de libération des colonisateurs, des Français, des Anglais, de l'ONU qui répartissait les différents mandats et protectorats entre ces nations sur le Moyen-Orient. Et donc, à ce moment-là, évidemment, il y a eu deux autodéterminations qui se sont confrontées. Celle du peuple palestinien et celle du peuple juif, futur peuple israélien, qui n'est pas forcément assimilable, qui n'est pas d'ailleurs assimilable au peuple juif. Et voilà, là, on a une deuxième définition de l'antisionisme. Je ne veux pas, moi, que vous vous installiez chez moi et que vous ne... c'est pour ça que je suis antisioniste, ce qui est différent de l'antisionisme juif du départ. Et puis après, vous avez un autre antisionisme qui a prospéré. C'est l'antisionisme né au sein du mouvement anti-impérialiste et notamment de la gauche internationaliste alternative et de toutes les gauches, puisque la cause palestinienne, après la Nakba, en 48, la première Nakba avec 700 000 personnes qui ont été expulsées ou qui sont parties, mais qu'on a aidé à partir, à savoir l'armée israélienne, de chez eux, de leur village, de leur maison, qui ont perdu et qui sont devenus pour beaucoup réfugiés au Liban, en Syrie, en Jordanie ou ailleurs. Eh bien, évidemment, il y a eu une cristallisation d'une cause décoloniale autour du peuple palestinien, qu'on appelle l'antisionisme d'aujourd'hui. Mais l'antisionisme d'aujourd'hui, il a aussi plusieurs facettes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a ceux qui se disent antisionistes et qui ne contestent pas le fait historique, démographique et étatique Israël. Et puis il y a ceux qui le contestent et qui disent « ça n'aurait jamais dû exister ». C'est pour ça qu'il y a une succession et plusieurs types d'anti-sionisme. Aujourd'hui, il y a un autre mouvement, ce qui est celui de l'assimilation politique entre l'antisémitisme et l'antisionisme. C'est un mouvement qu'on constate depuis un petit moment, qu'on a entendu d'ailleurs dans les paroles d'Emmanuel Macron, qu'on a entendu dans la parole de plusieurs politiques, qu'on a vu surgir au Parlement français avec la récupération de définition de l'antisémitisme. Et évidemment, c'était une nécessité puisqu'il y avait un accroissement de l'antisémitisme avec une nécessité de le combattre, de la même manière que tous les racismes. Sauf que dans ces définitions qui étaient données, que le Parlement français a essayé de prendre, parce que c'était compliqué à définir, eh bien, il y a à quelques moments des hypothèses qui assimilent la critique de l'État d'Israël, la contestation de l'État d'Israël et l'antisémitisme. Et là, on a quelque chose qui est problématique. C'est pour ça que moi, j'ai essayé, à travers ce livre, de définir ce que pouvait être aujourd'hui l'antisémitisme, décorrélé d'une possible critique, évidemment, plus que critique aujourd'hui d'ailleurs, de la politique israélienne, sans forcément, parce que moi, je ne suis pas un juif antisioniste, je ne suis pas un juif sioniste non plus, je l'ai été, je ne le suis plus, j'explique comment j'en suis arrivé à ce cheminement. Je me définis comme asioniste, c'est-à-dire ni sioniste ni antisioniste. Ça existe, on a le droit. Et on a le droit de ne pas choisir un camp ou l'autre, d'ailleurs. À un moment où tout est binaire et où on a un assujettissement identitaire, où on vous dit de choisir entre le sionisme et l'antisionisme. Je dis, moi, tel que vous définissez en tout cas l'antisionisme, ça ne me convient pas. Je ne suis pas pour la contestation de l'existence même de l'État d'Israël. Aujourd'hui, il y a 7 millions de juifs et non-juifs, 20% de la population est palestinienne. Il y a aussi une population, alors il y a une population palestinienne musulmane, une population palestinienne chrétienne, une population juive. On ne peut pas remettre en cause un État. Il y a des personnes qui disent on peut remettre en cause la façon dont ça s'est structuré, à savoir dire qu'il pourrait y avoir un État binational et que palestiniens de Palestine et palestiniens d'Israël et juifs d'Israël vivraient dans une seule nation. C'est l'hypothèse retenue par beaucoup comme Rima Hassan. Et c'était l'hypothèse d'ailleurs de Buber, un philosophe sioniste d'ailleurs, initialement. Mais c'est l'une des hypothèses qui n'a pas été retenue. Donc moi, j'estime que ce serait évidemment, à mon sens, l'idéal. Ça me semble aujourd'hui en l'état totalement impossible. Pourquoi ? Parce que, vu ce qui se passe, vu les haines, il faudrait des décennies pour faire retomber le conflit et pour permettre à des personnes qui se sont entretuées de vivre ensemble. Et puis surtout, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une loi fondamentale en Israël qui considère qu'Israël est un État juif depuis 2018. Et donc, constitutionnellement, c'est plus compliqué. Après, ça peut être mis en cause. Mais voilà, il me semble qu'aujourd'hui est plus viable la solution à deux États, celle qui avait commencé, c'est-à-dire le processus de paix qui, en 1995, et bien avant 1995, parce que ça a pris du temps pour permettre aux gens de parler, à des personnes comme l'OLP, avec Yasser Arafat, et avec tous les gens de l'OLP, à des personnes comme Rabin et l'État israélien, qui avaient été des militaires, qui s'étaient aussi entretués. On voit Rabin, d'ailleurs, au moment de la guerre de 67, qui rentre dans Jérusalem avec Moshe Dayan. Donc c'était un homme, un militaire, c'était un général qui avait tué à travers la guerre, beaucoup de Palestiniens et beaucoup d'Arabes. Donc évidemment, c'était extrêmement compliqué d'envisager, de pouvoir imaginer que Arafat et Rabin puissent un jour se serrer la main et commencer à discuter et dire voilà, maintenant il nous faut deux États parce que c'est la seule possibilité et la seule chose viable. Donc moi, je suis né là-dedans, dans cette croyance, dans cet espoir. C'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'on a 600 000 colons en Cisjordanie. Est-ce qu'on va pouvoir les virer comme on les a virés de Gaza? Ça me semble aussi extrêmement compliqué. Donc c'est encore plus compliqué aujourd'hui qu'en 1995.
Ce qui nous éclaire un petit peu ce que j'entends en filigrane, mais l'autre partie du titre de ton livre, dans cette pluralité d'identités, c'est de gauche. Et j'imagine la difficulté de pouvoir avoir telle conversation dans certains milieux de gauche qui ont une vision assez binaire, finalement, comme tu l'as dit, de ce qui se passe là-bas. Soit on est pour Israël, soit on est contre Israël, soit on est pour la Palestine, soit contre la Palestine. Et ça, ça tu l'expliques aussi. Alors, mais de quelle gauche tu parles ?
Il y a des gauches.
Tu parles de ça. Oui, des gauches, tu le dis au pluriel.
Il n'y a jamais eu une gauche en France. Ça n'a jamais existé.
On est encore dans la pluralité.
Mais il y aura toujours une pluralité, parce que les gauches, c'est aussi une multitude d'identités, d'objectifs, de stratégies qui découlent d'ailleurs d'histoires, d'objectifs et de stratégies. Vous avez les anarchistes, vous avez les communistes qui avaient une histoire un peu commune mais qui est radicalement différente aujourd'hui. Vous avez des socialistes, vous avez des socialistes démocrates, vous avez des insoumis qui ont encore une autre histoire politique désormais. Vous avez tellement, et puis au sein de la société civile, n'en parlons pas, vous avez des écologistes, avec une pluralité, voilà. Ça, le Front Populaire, en 1930-31, je crois, si je ne me souviens plus exactement de la date du Front populaire, avec Léon Blum, c'était aussi cette pluralité. Mais ils ont réussi à travailler ensemble. Mais pour répondre précisément à ta question, à l'extrême gauche, comme elle est qualifiée aujourd'hui, j'aime pas le mot extrême gauche, parce que c'est aussi, ça représente pas non plus la multitude et la diversité des options politiques dans cette partie-là des gauches. Mais toujours est-il que, oui, il y a une tradition anti-impérialiste et décoloniale, indéniablement. C'était aussi le cas au sein du Parti socialiste, même si l'histoire et le rapport avec Israël est plus compliqué que ça. Toujours est-il que... aujourd'hui, il y a une forme de radicalité parce que c'est l'un des derniers combats décoloniales que je partage. Je me dis juif décolonial. Je me pense juif décolonial parce que je me suis construit aussi en termes politiques dans le décolonialisme et dans le décolonialisme s'agissant des Palestiniens, mais également dans le travail sur les reliquats du colonialisme contemporain en France et dans le reste du monde.
Ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans le livre de juste avant, en fait.
Bien sûr. C'est l'une de mes matrices profondes que j'ai découvert peut-être un peu sur le tard, mais qui s'est intégrée définitivement en moi parce que j'ai compris que moi, en tant que juif arabe, juif maghrébin qui venait d'Algérie et de Tunisie de par mes parents, évidemment, cette histoire faisait déjà partie de moi avant même ma naissance. Et donc, j'ai parfaitement intégré ce combat fondamental avec les autres. J'ai essayé de fondre ou de créer des grilles, une intersection de grilles de lecture, si on veut. Ce qui est aussi un problème aussi des gauches, c'est qu'elles ont conservé des vieilles grilles de lecture. Elles ne les ont pas jointes. La grille de lecture marxiste ne s'est pas encore le joint avec la grille de lecture du combat antiraciste totalement. Elle ne s'est pas jointe aux grilles de lecture dominant-dominé. Ça, c'est vraiment le sous-jacent commun. Voilà, il y a une succession de grilles de lecture au sein des gauches et chacun travaille encore et réfléchit avec ses grilles de lecture. Mais pour revenir précisément à la question, évidemment... ce combat anticolonialiste s'est cristallisé sur la cause du peuple palestinien, et ça, c'est un peu normal. En revanche, cette grille de lecture qui consiste à opposer un dominant, un dominé, exclusivement sans réfléchir, a conduit, par exemple, à des communiqués de presse du 7 octobre, qui m'ont bouleversé. C'est-à-dire, au motif de... du décolonialisme, du rapport dominant-dominé, on devrait mettre de côté qu'il y a des hommes et des femmes qui sont tués. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre parce que le cœur de tout, pour moi, c'est la vie. La liberté et la vie. Au motif d'une idéologie, ou plutôt d'une grille de lecture, ou d'un combat fondamental qui est le mien, en oublier ou justifier le meurtre de civils, c'est quelque chose que je ne pourrai jamais admettre.
Il y a aussi le rôle des médias dans tout ça, qui ont quand même une tendance à raconter de façon assez parcellaire les faits. Là, on a l'impression, pour l'histoire dont on parle, depuis le 7 octobre, en regardant un peu autour de moi, comme si le conflit israélo-palestinien avait commencé là, le 7 octobre, pour certains. Les médias ont quand même un rôle assez important à jouer dans cette version tronquée des histoires qu'ils racontent.
Oui, mais pas que les médias. On a des narratifs ou des narrations politico-médiatiques à chaque fois qu'il y a des situations de crise, de guerre ou là de massacre entre Israël et la Palestine. Donc évidemment, ils contribuent tous à hypertrophier les crises, hypertrophier les clivages qui sont normaux. Quand on dit qu'on importe le conflit, c'est absurde. On n'importe rien du tout. Le conflit, il est international. Le conflit, il existe en France depuis toujours. Le conflit, il est en nous, dans nos propres identités. Donc non, on n'importe pas le conflit. Il existe et il faut le traiter. Il faut le questionner. Il faut interroger. Il faut poser les mots. Il faut pouvoir se parler. Il faut pouvoir expliquer. Il faut pouvoir définir ce que sont ces mots pour que justement, on trouve des solutions. Et ce n'est pas dans la binarité. Ce n'est pas dans le campisme. ce n'est pas dans ce que l'on voit aujourd'hui qu'on trouvera des solutions intellectuelles et politiques. Et ça, je pense que seuls les fous pensent que la solution n'est pas politique, notamment entre les Israéliens et les Palestiniens. Et évidemment, quand en France, on en est à dire « Ah, mais Israël ne devrait pas exister », ou « Ah, mais les Palestiniens devraient être virés de Gaza », comme j'entends beaucoup cela, notamment dans la communauté juive qui s'est droitisée profondément.
Ou comme d'entendre aussi de soutenir un Palestinien, de se faire accuser d'antisémite aussi, d'avoir des visions très binaires comme ça, très binaro-centré. Je sais pas si
comme,
ça se dit, mais...
comme effectivement il y a une instrumentalisation de l'antisémitisme, pas toujours. Il faut justement faire le départ entre ce qui relève de l'instrumentalisation de l'antisémitisme, entre ce qui relève de l'antisionisme, au sens critique, voire même contestation de la structuration étatique de l'État d'Israël. Quand on dit on veut un État binational, ça n'est pas être antisémite. Ça, il n'y a pas de difficulté. En revanche, utiliser son antisionisme pour exprimer sa haine du juif, par exemple, utiliser le mot juif quand on définit ou quand on parle du conflit ou quand on parle d'Israël, pour définir, parce que ça englobe finalement tous les juifs du monde, alors qu'on devrait parler d'un État ou d'une situation politique ou de dirigeants politiques. Là, on voit, c'est un exemple qui permet d'identifier les prémices de l'antisémitisme qui, quelquefois, est masqué derrière un antisionisme.
Discours qu'on peut avoir de la même manière à l'inverse, en prenant des raccourcis, en utilisant les mots arabes ou les mots islamistes aussi, pour définir les Palestiniens de la même manière.
Très exactement de la même manière. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose qui permet d'identifier les convictions et les volontés derrière ces accusations de part et d'autre. C'est quand on ne combat que l'antisémitisme, ou quand on ne combat qu'une forme de racisme, on a déjà une perception de l'unilatéralisme d'une pensée. Moi, j'ai toujours combattu tout, absolument tous les racismes. J'ai combattu l'islamophobie quand je voyais, notamment au moment de la manifestation l'islamophobie qui a été... Non, j'ai appelé à cette manifestation, notamment avec la Ligue des droits de l'homme, parce qu'on savait et qu'on ressentait, comme dans la société française, notamment après 2015, après les attentats de terrorisme islamiste de 2015, du 13 novembre, on sentait que la population avait pris un penchant, les politiques aussi, un penchant islamophobe, et que les musulmans en France étaient spécifiquement visés en raison de leur appartenance ou de leur pratique religieuse. et évidemment, on a travaillé énormément dessus. Moi, j'ai défendu énormément de personnes pendant l'état d'urgence, des personnes assignées à résidence, parce que j'ai senti que c'était leur croyance qui était visée, ou ce qu'ils étaient, et, ou bien leur origine aussi. Parce que derrière l'islamophobie, il y a aussi arabe, puisque l'islamophobie est venue... est une couche supplémentaire au racisme anti-arabe. Et quand j'ai senti la résurgence de l'antisémitisme, liée notamment évidemment à la situation israélo-palestinienne, mais pas que, liée à cet antisémitisme qui ne vient pas que de l'extrême droite ou de la droite, il faut qu'on se le dise à gauche pour purger ce problème. Il y a un antisémitisme de gauche, il est historique. Je peux vous donner un exemple. Le mot antisémitisme a été créé par quelqu'un d'extrême gauche, Wilhelm Marr, en Allemagne, qui appartenait à l'extrême gauche allemande, et qui a créé la Ligue antisémite, et qui envisageait les juifs comme en situation de pouvoir, qui voulait dominer le monde à travers la finance et le capitalisme. Lorsqu'on parle de la finance internationale, ce sont des alertes, ce qu'on appelle des...
On a inventé l'archétype Rothschild, comme ça.
Par exemple, oui, effectivement, ce sont des mots qui doivent alerter, à gauche. Ce sont des mots qui vont fracturer les gauches. Ce sont des mots qui... une sorte d'antisionisme qui n'est pas toujours conscient, qui est souvent inconscient, qu'on retrouve dans l'imagerie, qu'on retrouve dans certaines phrases. Je parle de les dragons célestes, par exemple, qui aujourd'hui, sur Internet et sur Twitter... identifie des personnages d'un manga japonais, extrêmement connu. Et c'est une population de personnes qui ont beaucoup de pouvoir et qui dirigent le monde. Dans le manga lui-même, ce ne sont pas des juifs. En revanche, dans la fachosphère ou dans la twittosphère, eh bien, on a commencé à parler des dragons célestes pour identifier les juifs sans parler des juifs. Là aussi, vous voyez, il y a ce qu'on appelle les dog whistles, des appos à chiens. C'est des mots qu'on utilise pour ne pas utiliser les mots qui nous vaudraient des poursuites, mais que ceux qui les entendent savent très bien de quoi on parle. Là, et ça, c'est malheureusement quelque chose qui devient aussi récurrent à gauche. On doit travailler sur tous les racismes, surtout sur l'antisémitisme, ensemble, de manière indivisible. Sinon, eh ben, on va perdre les batailles et on va perdre la possibilité pour les gauches de travailler ensemble.
Alors, tout ça, c'est des questionnements qui sont au cœur donc, de ton livre qui sortira début avril, « Juifs français de gauche dans le désordre ». Mais je voudrais quand même aussi profiter de ta présence. Alors, je ne me rends pas trop compte au niveau du temps qui nous reste. Je ne sais pas du tout en face Régis.
On est à 40 minutes.
Donc, il nous reste une bonne grosse vingtaine de minutes, voire même si on déborde un petit peu. Je voudrais quand même parler aussi de ton premier livre, parce qu'on va quand même pouvoir faire des liens et des ponts
Deuxième.
C'est ton deuxième livre.
Le premier, c'est appelé « Le coup d'état d'urgence » publié au Seuil. Et c'était une analyse comparative entre l'état d'urgence de 2015, justement, ce dont je vous parlais, et l'état d'urgence sanitaire. Et de montrer comment ces états d'urgence successifs, qui rentraient dans le droit commun, érodaient l'état de droit. Voilà. Mais il y a aussi d'ailleurs.
Sujet.
Ah bah oui. Et puis il y a aussi une réflexion commune avec le deuxième livre, à savoir l'État hors la loi sur les violences policières.
Et alors là, on va parler justement du colonialisme et du décolonialisme. J'ai presque envie de dire que ces violences policières, un petit peu, sans dire qu'elles y trouveraient leur source, mais on va comprendre un petit peu ce que je veux dire par là, enfin de ce que j'ai découvert moi en lisant ton livre. Mais d'abord, on va définir une violence policière ensemble. Et là, ça va être un peu le discours de l'avocat. Qu'est-ce qu'on appelle une violence policière ?
Bah, ça n'existe pas, les violences policières, enfin.
Ah !
en tout cas, c'est la parole officielle. Emmanuel Macron, Darmanin, Castaner, tous les politiques, les préfets de police, etc. Quand on les interroge sur les violences policières, ils vous disent « Écoutez, monsieur, ça n'existe pas et évitez de parler de sujets qui n'existent pas. »
D'accord.
Et de manière assez martiale, d'ailleurs. Et pour cause, ils veulent pas qu'on parle de qu'on utilise cette expression pour la simple et bonne raison qu'ils savent que derrière violence policière, il y a un autre mot. Alors c'est pas systématique, hein. C'est pas que tout policier commet des violences, mais il y a un autre mot qui ressemble aussi, c'est systémique. Et ce mot, c'est un gros mot pour eux. Pourquoi ? Parce que les violences, quand on parle de violences policières, effectivement, ce sont les violences policières systémiques, c'est-à-dire dont l'origine est l'État, l'institution. L'administration, l'institution policière, à travers les carences et les dysfonctionnements de formation, des formations trop courtes, à travers les dysfonctionnements en termes de recrutement, des mauvais recrutements, à travers les instructions qui sont données, quelquefois qui orientent vers une violence disproportionnée, à travers des textes de loi qui vont causer ou augmenter le nombre de tirs policiers sur des voitures en mouvement et qui vont entraîner une augmentation des morts dans ce que l'on appelle, entre guillemets, les refus d'obtempérer. Je dis entre guillemets parce que c'est une forme de criminalisation, l'expression refus d'obtempérer pour quelqu'un qui vient de mourir. Voilà, c'est une succession de dispositifs juridicaux, légaux, administratifs qui font qu'il y a toutes ces violences policières. En plus de ce qu'on appelle bavure, que là, ils sont OK pour reconnaître. Pourquoi ils sont OK pour reconnaître les bavures ? Parce que finalement, ce sont des cas individuels. La responsabilité judiciaire, elle ne repose que sur le policier. Donc, en fait, ils s'en lavent un petit peu les mains des policiers. Ils préfèrent que la responsabilité pénale, elle pèse sur le policier et non pas sur les décideurs et de manière générale sur l'État. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas parler de violence policière. Alors, c'est quoi une violence policière. D'un point de vue juridique, le mot violence apparaît à un seul moment dans le code pénal, quand on parle de violence volontaire. C'est une infraction. C'est quoi une violence volontaire ? C'est une violence qui porte atteinte à l'intégrité corporelle. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait le corps qui soit touché par un coup, l'usage d'une arme, une contrainte, le simple fait de menotter quelqu'un. Alors, violence volontaire
par une personne dépositaire de l'autorité publique, c'est une circonstance aggravante. Une personne dépositaire de l'autorité publique, c'est quoi ? C'est un policier, c'est un gendarme, c'est éventuellement un agent de sécurité des moyens de transport, comme dans le bus, le métro, le train. La SUCH, par exemple, la police de la SNCF. J'ai beaucoup de dossiers de violence policière et ce sont des personnes qui ont cette qualité de dépositaire de l'autorité publique. Et donc voilà ce que c'est qu'une violence. C'est une violence qui porte atteinte à violence volontaire qui porte atteinte à l'intégrité corporelle et qui est commise par une personne dépositaire de l'autorité publique. Mais c'est un peu long tout ça. mais au regard du code pénal, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas. Alors, il y a les violences psychologiques aussi qui sont considérées comme des violences volontaires portant atteinte à l'intégrité corporelle, sous réserve qu'elles portent justement atteinte à l'intégrité corporelle. Par exemple, si vous criez sur une personne de telle manière que ça va retentir sur son psychisme et qu'il va être effrayé, voire avoir son rythme cardiaque augmenté, là vous avez une atteinte à l'intégrité corporelle et ça peut être considéré comme une violence volontaire. Voilà ce que c'est. En revanche, le harcèlement moral, c'est pas une violence au sens du code pénal. C'est une violence au sens social au sens psychologique, mais c'est défini différemment. La langue du droit n'est pas la langue commune. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une violence. Évidemment, c'est une violence, mais au sens commun. La violence sociale, ça n'est pas poursuivi par le code pénal. Et pourtant, tout le monde, beaucoup, en souffre de cette violence sociale, et c'est peut-être même la matrice de tout. Voilà pour résumer ce qu'est une violence policière.
Et c'est quoi qui t'a donné envie, toi, dans ta vie d'avocat, d'aller plus particulièrement sur ce type de violence-là ? Tu pourrais défendre d'autres affaires.
En fait, jeune avocat, j'ai défendu beaucoup de personnes d'abord à qui on reprochait des ventes ou des trafics de stupéfiants en Seine-Saint-Denis. Et j'ai vu beaucoup de jeunes qui avaient des ecchymoses, des bleus, des contusions, des yeux au beurre noir souvent, quelquefois des doigts ou des bras cassés. Bon, au début, on se dit, c'est un peu les risques du métier quand on se fait interpeller. C'est physique l'interpellation. Et puis en fait, j'ai vu apparaître une autre infraction, qui est deux infractions différentes, l'outrage et la rébellion. Et là, ce n'était pas des personnes qui vendaient du stup, c'était des personnes qui, au moment des contrôles, contrôle dit au faciès parce que discriminant, très fréquent dans les quartiers populaires, eh bien, il y avait une forme de virilisme de la part des policiers, un rapport d'autorité, de soumission, de volonté, d'attente de la soumission de la personne qui se faisait contrôler. On n'était pas dans un contrôle simple. Je vous montre ma carte d'identité, merci, au revoir. Non, on était dans un contrôle qui perdurait, avec des fouilles, avec une forme de provocation, et qui a mené justement à un rapport de force, dont l'objectif de poursuivre, en plus de contrôler. Et donc on avait des poursuites, des gardes à vue sur des personnes racisées, noires ou arabes, dans les quartiers populaires, très fréquemment. Et moi, ce que je voyais en entretien de garde à vue, ils avaient pareil, des contusions, des yeux au beurre noir, des poignets rougis par le menottage, et des fois bien pire, des fois des mutilations, des fois des morts. Et c'est comme ça que j'ai été amené à essayer de comprendre ce fonctionnement, cette mécanique infernale qui consistait à contrôler illégalement, mettre en garde à vue illégalement, violenter illégalement, juger et empêcher la victime de tout cela, finalement, d'obtenir justice en étant jugée en comparution immédiate, c'est-à-dire dans des procédures d'urgence, et quelquefois en finissant en taule. C'est un schéma qui était tellement récurrent que ça m'écœurait le soir de ne pas pouvoir faire quelque chose, d'avoir des juges qui condamnaient alors qu'ils sentaient que c'était pas normal ce qui s'était passé. Et donc j'ai essayé de trouver des solutions. Et donc j'ai proposé à ces personnes que je défendais de se défendre, de déposer plainte. Au début ça donnait rien, parce que il y a 20 ans, les violences policières, la justice, elle s'en foutait royalement.
Et puis ça fait peur de porter plainte contre la police.
La plupart me disaient, maître, ça sert à rien. Et puis d'ailleurs, on peut même pas déposer. Il y en a certains qui pensaient qu'on pouvait même pas déposer plainte contre les policiers. Et la plupart disaient, ça sert à rien. Ce sont les policiers, de toutes les manières, ça sert à rien. Et effectivement, ils avaient raison. Il y a eu beaucoup de classements sans suite et de non-lieu. Et en réalité, au fur et à mesure, on a commencé à faire comprendre. Ça a duré 20 ans. Avec d'autres avocats militants, d'autres avocats qui ont commencé à travailler sur ces questions. Il y a eu de plus en plus de violences policières, ou pas, ou en tout cas, elles ont peut-être été plus visibles, notamment avec les vidéos, parce que les violences policières, ça a toujours existé. C'est pas nouveau, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup aujourd'hui. Peut-être qu'il y en a eu plus ces derniers temps, parce qu'on a un gouvernement, et là il faut bien comprendre que les violences policières, c'est d'abord des violences d'État, ce sont des violences politiques, et il n'est qu'à voir le traitement différencié des agriculteurs pendant la mobilisation sociale, des agriculteurs qui ont commis des dégradations lourdes, hein. On a vu des bâtiments publics soufflés par des explosions, et la volonté de l'État de ne pas engager un maintien de l'ordre, et encore moins un maintien de l'ordre violent. Alors que d'autres, dans des conditions beaucoup plus pacifiques, notamment sur les mobilisations Loire-Retraite, et c'était extrêmement structuré par des syndicats qui avaient l'habitude d'organiser avec des services d'ordre, se sont vus gazés, menottés, matraqués, quelquefois avec des mutilations, avec des tirs de LBD 40. Tout ça, c'est une volonté politique.
Et encore, tu n'as pas cité les ZAD dans les exemples que tu viens de citer, où là, on est monté encore un peu plus loin dans l'escalade de la violence. Il y a eu la famille de Rémi Fraisse qui a perdu leur enfant.
Après les quartiers populaires, où j'ai défendu beaucoup de personnes et où j'ai compris l'histoire de ces violences. C'est une violence coloniale aussi.
Oui, oui.
Avec des unités de police qui ont été créées pour ces populations. Je pense évidemment à la brigade anticriminalité qui a été créée en Seine-Saint-Denis dans les années 60 par des préfets qui ont eux-mêmes été administrateurs coloniaux et qui ont créé une expérience du traitement des indigènes en Algérie, en Tunisie, au Maroc ou en Afrique subsaharienne. Et évidemment, toute cette expérience, parce que c'est une expérience dans les quartiers populaires, c'est aussi une forme de contrôle social pour éviter la contestation, les entre guillemets émeutes qui naissent à chaque fois justement qu'il y a des violences policières, comme ce fut le cas avec la mort de Nahel ou avec Ziad Ebouna en 2005. À chaque fois, c'est parce qu'il y a des policiers qui tuent des jeunes, des enfants, parce qu'ils sont noirs ou arabes, ou alors qu'ils sont noirs ou arabes, ça dépend des cas. Donc juste vous dire que c'est cette expérimentation. Progressivement, c'est ce qu'on appelle la tache d'huile. L'État, systématiquement, va étendre ses dispositifs expérimentaux vers le reste de la population. Autant les quartiers populaires et les populations anciennement colonisées, en tout cas de pays anciennement colonisés, n'intéressent pas la population en général, non, blanche, bourgeoise ou pas d'ailleurs. Et il y a eu cette expérience et ça s'est étendu progressivement aux écolos, hein. C'est pas nouveau, hein. Il y a eu toujours un axe de la violence d'État très spécifique sur les écologistes. Je pense évidemment à la famille, à Rémi Fraisse, à Sivens. Mais bien avant Rémi Fraisse, il y a eu NDDL, Notre-Dame-des-Landes.
Et encore bien avant, il y a eu des choses aussi.
Notre-Dame-des-Landes, en 1977, Vital Michalon, à Creys-Malville, avec Super Phoenix, qui a été tué par une grenade offensive. La même grenade qu'on retrouvera en 2014. Qui va tuer Rémi Fraisse. Vous voyez les boucles de l'histoire. Oui, il y a quelque chose de très spécifique dans la violence qu'ont les écologistes. Et puis après Sainte-Soline, évidemment. Ce côté spécifique, c'est l'alliance entre le néolibéralisme et l'autoritarisme. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme autoritaire. À un moment où l'ennemi du productivisme qu'est l'écologiste devient un ennemi fondamental. D'où les termes et les sémantiques d'éco-terroristes, de djihadistes verts, etc., qu'on a entendus. Et c'est pour ça qu'il y a eu ça s'est crispé, d'ailleurs sous un gouvernement socialiste, hein, avec Cazeneuve et avec François Hollande. Et puis par la suite, ça s'est étendu à tout le militantisme, toute l'expression politique, dans toutes les manifestations. Loi debout, Nuit debout, loi travail, gilets jaunes, loi retraite, une explosion. Des mutilations, des usages des armes, avec un transfert des technologies et des unités qui avaient été créées dans les quartiers populaires vers le maintien de l'ordre. Je pense évidemment aux braves M, qui sont des BAC et des CSI qui ont d'abord été expérimentés dans les quartiers populaires. Voilà comment ça se passe. C'est pour ça qu'il faut toujours, toujours, dans toute l'histoire, protéger les minorités, parce qu'il faut protéger les minorités. Et aussi parce que quand on touche aux minorités, ça me rappelle une phrase de Frantz Fanon, quand on touche aux juifs, quand on parle du juif, il faut s'inquiéter. Et pareil pour toutes les minorités. Quand on touche aux minorités, il faut que toute la société s'inquiète.
Est-ce qu'il y a un traitement différent dans les procédures pénales quand on traite les violences policières dans les quartiers ou quand on traite de violences policières pour le cas d'un éco-terroriste qui se retrouve du coup avec cette notion de terrorisme ? Est-ce que c'est différent ?
Alors, c'est évidemment différent. Là, il n'y a pas très longtemps, vous avez eu des militants qui ont été poursuivis, ceux du 9 décembre, et qui ont été jugés extrêmement sévèrement avec la qualification terroriste en matière délictuelle. Il peut y en avoir en matière criminelle ou en matière délictuelle. Là, on était en matière délictuelle, c'est-à-dire avec une peine maximum de 10 ans. Toujours est-il que, oui, l'acception, le mot terrorisme, c'est un mot qui est à la frontière entre le politique et le droit. C'est même une faille béante utilisée par le pouvoir politique pour utiliser le droit et réprimer la contestation politique. Mais pas que. Il faut bien comprendre qu'il y a une succession de réalités dans le mot terrorisme, et c'est déjà en soi un problème. Hein. Quand vous jugez devant les mêmes tribunaux, avec les mêmes qualifications, des terroristes islamistes qui ont tué des centaines de personnes et des écolos qui viennent du Rojava, c'est un vrai sujet. Et évidemment, il y a une extension progressive du mot terrorisme. Ça a toujours été le cas historiquement. Là, en ce moment, il y a cette crispation qui constitue une répression judiciaire du militantisme et de la contestation politique. Donc, évidemment, aujourd'hui, les écolos commencent à être touchés par l'acception terroriste, et je suppose qu'on va aller vers un accroissement de l'utilisation de l'outil antiterroriste contre les écologistes, mais de manière plus générale. Évidemment, c'est pas le même traitement que dans les quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, c'est beaucoup plus de violence, en fait, directe, permanente. Le contrôle social est vraiment quotidien. On rentre dans les maisons. On a une volonté de régenter la vie de toutes ces populations qui, génération après génération, ont été soumises à une ségrégation politique, sociale, économique et raciale. Ce sont, à mon avis, deux types de dispositifs disciplinaires et punitifs différents.
Alors, il y a aussi quand même un autre fait important, malgré tout, sur tout ça. Certains qui sont proches, on va dire, des idées gouvernementales diraient, mais on a eu la loi sécurité globale en 2020 qui protège la population, soi-disant, des violences policières, et parler peut-être du coup du rôle de l'image dans tout ça et de cette course contre la montre que toi, tu t'es retrouvé régulièrement peut-être à effectuer pour les cas de violences urbaines en ville et pour cette course de l'image, en fait, pour arriver à prouver et à passer par-dessus cette espèce de sacro-sainteté de la parole des personnes qui sont détenteurs de l'autorité. J'ai du mal à le dire, d'ailleurs, tellement j'ai du mal à me reconnaître.
Dépositaire de l'autorité publique. Mais en fait, l'image, elle existe bien avant les vidéos, qui pourtant ont été un facteur de révélation des violences policières, avec les téléphones portables, avec les live streams pendant les Gilets jaunes notamment, qui ont permis de voir beaucoup de choses et d'identifier les violences policières et d'identifier même les policiers. Donc, ça a été fondamental. Mais avant même qu'on détienne ou qu'existent les téléphones portables, la question de l'image est au cœur même du dispositif des violences policières. Quand je dis dispositif, parce que c'est quelque chose qui est structuré. Quand vous prenez la mort de Malik Houssekine, ou immédiatement en 86, rue Monsieur le Prince, par les voltigeurs, les ancêtres des Braves M d'ailleurs, quand à ce moment-là, on voit le préfet, le ministre de l'Intérieur essayer d'échafauder, d'élaborer une contre-narration en essayant de lui imaginer, par exemple, une maladie des reins qu'il avait, mais qui n'était pas du tout la cause de sa mort, en essayant de trouver quelque chose qui puisse salir son image. Vous voyez qu'il y a une guerre de l'image qui s'établit à chaque fois qu'il y a un mort du fait de policiers. L'État, l'institution policière, l'État de manière générale, essaie de se protéger. C'est vraiment une guerre d'image. Évidemment, cette guerre d'image, elle s'est amplifiée de manière considérable au moment des vidéos, avec les téléphones portables ou avec les vidéos même des préfectures, puisqu'on peut récupérer les images de la vidéosurveillance, qui est contestable, mais ça peut aussi nous servir pour identifier les policiers, objectivement. Et ben là, à ce moment-là, évidemment, l'État a su qu'il perdait du terrain, dont l'invisibilisation et dans des violences policières et dans la visibilisation des policiers auteurs de ces violences. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a imaginé, alors c'est l'État, c'est par l'intermédiaire de députés, un ancien patron du RAID, Fauvergue, qui a créé une proposition de loi, la fameuse loi de sécurité globale, dont un article, il y avait plein de dispositifs, mais un des articles, c'était l'article 24, pour ceux qui s'en souviennent. Et à ce moment-là, je peux vous raconter l'histoire du début de cette loi. Hein. On n'a plus beaucoup de temps, mais en deux mots, je fais un message à deux syndicats de journalistes, à deux Emmanuel, SNJ-CGT, sur Twitter. Je leur dis, il va y avoir un sujet pour vous. Là, vous n'allez plus pouvoir bosser comme vous bossiez auparavant. Vous, journaliste, vous ne pourriez plus prendre des images dans les manifestations, sauf à vous voir poursuivi vous-même, alors que vous faites simplement votre boulot. Et après, ça a intéressé évidemment tous les métiers de l'image. Vous vous imaginez, on enlevait une grande partie de la possibilité de filmer, parce qu'avec cette infraction, même si l'élément intentionnel, c'est le caractère malveillant de la diffusion de l'image, en réalité, ça donnait un outil terrible aux policiers pour pouvoir interpeller dès que quelqu'un soulevait une caméra ou un téléphone portable, et donc d'empêcher. Et l'idée sous-jacente de tout ça, c'était une chose très simple, c'était de pouvoir filmer, avec notamment les caméras piétons, la vidéosurveillance, la centralisation des images, les drones, avec l'image 3D en fait. L'État voulait voir tout, et tout le monde, le panoptique absolu, sans être vu. Et c'était évidemment le rêve d'un pouvoir et du caractère répressif du pouvoir. Évidemment, il y a eu une mobilisation sociale qu'on a portée avec la société civile. La Ligue des droits de l'homme a été précurseuse, avec Amnesty, avec la Quadrature du Net, évidemment, et avec les journalistes, les syndicats de journalistes, les métiers de l'image, du documentaire, les réalisateurs, la SRF... Et vous avez vu un alliage hétéroclite dans les rues, en plein Covid, venir et remplir les rues de Paris à un moment où on ne pouvait même plus, on n'avait plus le droit de marcher dans les rues de Paris. C'est ça qui était fou. Et oui, on a repris ce chemin-là. C'est juste un moment où dire que c'est possible. Mais vraiment, parce qu'il faut quand même dire qu'à partir du moment où il y a une forme de solidarité, où on s'empare correctement des choses, où on ne fait pas que de la politique et où on s'empare de l'outil juridique, du droit, qui est quelque chose d'extrêmement rare dans la tradition militante française, communiste, anarchiste et autres. Le droit n'est pas qu'un outil répressif. C'est aussi une arme qu'on peut retourner contre la structure répressive. Vraiment. Et c'est tout ce travail qu'on a créé à travers ces années-là. Et juste dire que quand on allie la solidarité, la rue, le droit, le politique, le média, eh ben on a des victoires. Et même on peut en avoir beaucoup plus. Et c'est ce chemin-là qu'il faut arriver à creuser. Parce que dans 3 ans, là on n'a plus beaucoup de temps. Hein. Non mais objectivement, dans 3 ans, on peut être avec un gouvernement d'extrême droite qui n'aura qu'à reprendre les armes qui auront été forgées par des gouvernements socialistes ou centristes. Donc il faut se dire qu'on n'a plus beaucoup de temps pour être solidaire, comprendre nos identités, comprendre nos clivages, arriver à se reparler, arriver à poser les mots, arriver à lutter en commun contre le racisme et l'antisémitisme, arriver à trouver des façons de se parler et de mettre le minimum commun et nos divergences de côté. Sans oublier nos stratégies et nos objectifs différents. Mais là, sinon, on va se faire mettre façon puzzle, pour résumer.
Bon, on va arriver vers la fin, en tout cas, du temps qui nous est donné. Ce livre-là, L'État hors la loi, en tout cas, explique très bien, voilà, quand tu parlais de se réapproprier un petit peu ce domaine du droit, ce langage du droit. Moi, avant de l'avoir lu, au début, je me disais, oh là, je ne comprends pas trop grand-chose dans le domaine du droit. J'ai appris beaucoup de termes, ce qui fait que maintenant, grâce à la lecture de ce livre-là, en tout cas, si demain je me retrouve devant un tribunal pour avoir défendu une cause ou une autre, je serai déjà un peu plus... je serai capable de comprendre ce qu'on est en train de me dire.
C'est le meilleur compliment que tu puisses me faire, parce que c'est vraiment l'objectif de ces livres, de faire œuvre de pédagogie, de poser et de redéfinir les mots. Donc je suis très heureux que tu me dises ça.
En tout cas, merci. J'ai beaucoup appris ça, j'en ai beaucoup appris dedans. Ce soir à 19h, donc on se retrouve pour une discussion un peu comme ça, assez libre, hein, autour de ces deux livres, hein, c'est ça, Leïla ?
Totalement, avec le public et Arié assure pour l'exercice, donc c'est parfait.
Très bien. Merci beaucoup de ta venue sur Antenne Doc. Pour terminer un petit mot, le mot de la fin.
Ouais,
c'est ça qu'il a.
Je fais partie de la Ligue des droits de l'homme et j'en suis fier.
Ah oui, on a oublié de le dire depuis le début.
Non, mais c'est plus qu'une fierté. Parce que j'ai mené ces combats seul pendant très longtemps. en tant qu'avocat, et je me cassais les dents sur des murs. Alors ça faisait du bien de se casser les dents sur des murs, hein, psychologiquement j'entends. Mais il y a un moment où on aime bien passer au-dessus des murs. Et la Ligue des droits de l'homme, c'est-à-dire le combat collectif, m'a permis de passer les murs. Et c'est vraiment la nécessité d'efficacité et de collectif et de solidarité qu'elle représente. Et j'engage tout le monde, parce qu'il y a un moment où il va falloir qu'on travaille tous ensemble. La Ligue des droits de l'homme a toujours été une plateforme historique de toutes les sociétés, de la société civile et éventuellement des partis politiques. Il faut vraiment qu'on arrive à se structurer et qu'on aide, qu'on adhère. On peut être partisan, militant quelque part et être aussi à la Ligue. Donc adhérer, donner, participer à la Ligue des droits de l'homme, c'est quelque chose de fondamental.
Très bien. Venez nous rejoindre. Ça s'est vu d'ailleurs contre la loi immigration, la dernière manif, le dernier rassemblement qu'on a fait, où on était, je me souviens, 25 organisations dans le Lot, enfin à Cahors en tout cas, à se rejoindre et à se mobiliser contre la loi immigration. Et on a vu que les gens étaient au rendez-vous. C'était vraiment un beau dimanche qu'on a passé. Moi, j'étais fière d'être là et fière d'être au milieu de tout le monde. Et oui, j'appelle les personnes qui nous écoutent à venir nous rejoindre à la Ligue des droits de l'homme, à s'engager dans les associations, dans les syndicats, enfin, à faire sentir qu'ils sont là et à faire entendre leurs paroles. Ouais.
Alors, et en pratique, les prochaines dates où on peut donc rejoindre la Ligue des droits de l'homme, ce soir, 19h, à l'auberge de jeunesse de Cahors, Le Chai, pour cette discussion en compagnie d'Aria Limi autour de livres publiés aux éditions La Découverte, L'État hors la loi, logique des violences policières et juifs français de gauche dans le désordre. Mais aussi, vendredi, tu nous fais une autre surprise. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui vient avec nous pour une conférence gesticulée. Cette fois-ci, ce sera au DOC à 20h.
C'est
Michel Bénizerie, c'est ça.
Exactement.
Alors, le titre de la conférence.
Une conférence gesticulée, donc c'est un spectacle familial. Et c'est une conférence autour d'un petit peu... un peu sa vie aussi, un peu cette différence de culture, d'identité qu'on peut avoir, qui fait écho à l'intérieur de nous, là, qui coexiste, et trouver cet équilibre-là. Michel a su parler de sa vie, du fait d'être juif, du fait d'avoir fait partie du sionisme, d'en être venu, et de pouvoir aussi le partager avec tout le monde de manière assez sereine, assez simple, et de dire, d'expliquer ce qui lui semble être bon aujourd'hui pour lui, pour tout le monde, pour vivre en paix, pour vivre heureux avec les uns et les autres. Enfin voilà, moi j'ai vraiment l'impression, quand j'entends Arié parler aujourd'hui, sans vouloir faire de comparaison entre Arié et Michel Bénizerie, hein, c'est pas ça du tout, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un beau message d'espoir et d'amour aussi, mine de rien. Et ça, c'est important. Et moi, c'est les valeurs que j'ai envie de partager avec tout le monde. Et c'est pour ça que je me retrouve dans le discours d'Arié, comme je me retrouve dans la conférence gesticulée de Michel Bénizerie. Voilà, c'est une question de partage, de valeurs, de transmission. Et moi, j'aime bien ça.
Très bien.
Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à vous tous d'être venus.
Merci, William.
Merci. Merci, Régis.